Musique et poésie. Pour savoir qu'au-delà, tout reprend de plus belle. Jean-Sébastien Bach, sous les doigts de jeunes musiciens avec les mots d'un poète d'aujourd'hui. Une émission proposée par Pierre-Paul Delvaux avec la collaboration de la section clavier du Conservatoire Royal de Musique de Liège.
Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, dans notre émission où musique et poésie résonnent, nous continuons notre voyage dans le premier livre du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Nous abordons le prélude et fugue en ut dièse majeur. Et cette fois, c'est au piano que Benjamin Till nous régalera. C'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un compositeur se risque dans cette tonalité. Nous allons y revenir avec quelques détails, mais plongeons tout de suite dans le prélude avec tout son pétiment. C'était le prélude en ut dièse majeur, extrait du premier livre du clavier bien tempéré. Je rappelle que le projet de Jean-Sébastien Bach était d'écrire des préludes et fugues dans toutes les tonalités majeures et mineures. Pour cela, il va utiliser une façon d'accorder son clavecin qui rend possible le voyage dans toutes les tonalités. C'est le sens de l'expression « clavier bien tempéré ». Donnons quelques repères d'écoute pour le prélude. J'ajouterai ensuite quelques mots qui annonceront les résonances que j'y ai senties. Le prélude est à deux voix, donc deux lignes mélodiques, tout en agilité lumineuse. Il y a plusieurs motifs. Les deux premiers se superposent, l'un dans l'aigu, l'autre dans le grave. Puis ces deux motifs s'inversent, le grave se retrouve dans l'aigu et l'aigu dans le grave. Écoutons ce début, mains séparées et puis ensemble. Le reste du prélude est traité plus librement, un peu comme une toccata avec des motifs réguliers. Et le dernier trait, en style libre, est avant tout brillant. Écoutons. Avant de réécouter le prélude, en résonance avec cette virtuosité lumineuse, je voudrais parler des rêves. Et je dirais que les puissants ne supportent pas les rêves. Ils voudraient les exterminer. Mais les rêves sont rusés, et ils se cachent partout où ils le peuvent, dans les gouttes de rosée qui sont des perles de lumière. Ils se cachent aussi dans la peine visible, dans la peine audible, dans un regard entrevu, dans ton regard entrevu. Oui, tes yeux qui se donnent dans un instant d'éternité, dans un instant d'éternité. Les rêves se cachent dans le bruit de fin silence. C'est là qu'ils se sont réfugiés, les rêves, dans les perles de silence. Et ce sont ces perles-là que nous entendons ici. Sur RCF, dans l'émission qui laisse résonner musique et poésie, c'était le prélude en ut dièse majeur. Parlons un peu de la fugue. C'est une fugue à trois voix. Une voix, ici, ce n'est pas un chant, mais une ligne mélodique. Une ligne mélodique qui chante, d'où le terme de voix. Il y a donc ici trois voix, donc trois lignes mélodiques qui vont entrer successivement, se superposer et chanter ensemble. Elles ne vont pas chanter la même chose, elles dialoguent en ressemblance et en contraste. Il y aura des échos, des rappels, des imitations. Soulignons que l'imitation est certainement la figure essentielle du contrepoint et de la fugue. Nous y reviendrons à l'occasion. Disons un mot de la mélodie qui nourrit toute la fugue. On parle parfois du thème d'un morceau de musique. Pour une fugue, on parle de sujet. Un peu comme si cette mélodie initiale constituait le sujet de la conversation. Car c'en est une. Puisque trois voix, donc trois lignes mélodiques, vont se superposer et dialoguer. C'est ça le contrepoint. C'est une manière de dialogue. Le sujet de cette fugue est très particulier, notamment à cause des grands écarts qu'il fait entendre. Cela contraste avec le sujet de la fugue en ut majeur que nous avons entendu il y a quelque temps, toute en notes rapprochées. Voici le sujet de la fugue qui nous occupe et le sujet de la fugue en ut majeur, qui a une allure toute différente. Tout cela pour souligner que le sujet donne son allure à toute la fugue. Cette fugue est construite en trois parties. Au sujet que nous venons d'entendre s'adjoint très vite un contre-sujet. Ce terme technique désigne une mélodie qui va chanter avec la première en contraste, comme si ce fragment dialoguait dans la différence. Ici, c'est une sorte de guirlande qui sera souvent présente en face du sujet initial. Écoutons le sujet seul, puis le contre-sujet seul, et puis enfin, le sujet et le contre-sujet ensemble. « fugue va ensuite s'enrichir en intégrant quelques nouveaux motifs. Telle est la première partie. Puis la fugue se détend en une sorte de divertissement à deux voix où le sujet apparaît mais par fragments. Enfin, troisième partie, c'est le retour du sujet principal en entier, successivement aux trois voix, supérieure, médiane et puis basse. La fugue se conclut sur un dernier énoncé du sujet. En résonance, je dirais que la virtuosité n'est jamais gratuite chez Bach. Je repère dans cette fugue l'habileté du tisserand, l'habileté de celui qui tisse à gestes larges pour habiller, protéger, embellir. Vieux métier que celui de tisserand. Mais le tisserand peut aussi inviter à retisser une vie, une âme, un cœur, un être. Quelle est donc cette habileté? Nous en reparlerons tout à l'heure. Écoutons d'abord la musique, la fugue en ut dièse majeur. Avant de réécouter le prélude des fugues en ut dièse majeur en entier, quelques mots de Benjamin Till et puis les résonances poétiques que j'y ai senties. Benjamin Till, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Till, nous vous avons déjà entendu au piano. Parlons un peu de cette œuvre qui nous occupe aujourd'hui. Quelles sont vos options par rapport au tempo? On sait que Bach ne met pratiquement jamais d'indication de tempo dans ses œuvres, à de très rares exceptions près, et pour l'œuvre qui nous occupe, il n'y a aucune indication. Alors, j'ai déjà entendu que certains pianistes précipitent le tempo, en font une œuvre de virtuosité. Quelle est votre option?
L'idéal, là-dedans, serait de faire tout entendre. Donc, c'est une musique extrêmement, je dirais, réglée comme une horloge. C'est quelque chose de très, très précis, où chaque note a son importance. Donc, pour moi, le bon tempo est celui où on peut tout entendre, d'une part, et d'autre part en respectant aussi l'idée virtuose que Bach y met, parce que finalement c'est un prélude qui est quand même assez virtuose par rapport au premier, par exemple, ou au quatrième, qui sont des préludes plus intérieurs. Et dans le troisième, celui-ci qui nous occupe aujourd'hui, c'est vrai que c'est le premier prélude qui a véritablement un thème qu'on retrouve à droite, et à la main droite, pardon, et puis à la main gauche, où les voix s'échangent, je veux dire, passent d'un côté à l'autre. C'est, voilà, c'est un prélude qui a vraiment... Je pense que c'est le premier prélude qui a véritablement un thème, oui.
Voilà vos options par rapport au tempo. Alors, ce serait intéressant de parler un peu de vos options par rapport à l'articulation. Je rappelle à nos auditeurs que l'articulation en musique, c'est un peu comme dans le langage. C'est une manière d'isoler telle note ou au contraire d'en grouper d'autres. Je pense que l'articulation est importante pour vous dans la fugue, justement.
Oui, ben, ici, donc, la fugue dont on va parler maintenant, c'est une fugue à trois voix. Je dis bien trois voix parce qu'on parle de voix dans les fugues, précisément parce que ce sont des pièces qui ne sont pas prévues, je dirais, celles-là pour être chantées, mais qu'on pourrait chanter. Donc on a trois parties qui dialoguent l'une avec l'autre, toujours ensemble, ou presque toujours. Bon, forcément, au début, on a le thème qui est seul. La deuxième voix fait son entrée, puis la troisième. Donc ce sont trois parties qui dialoguent, trois voix, véritablement, qui dialoguent entre elles. Et donc, je pense, selon qu'on ait le thème ou le contre-sujet, il faut donner, je dirais, une certaine couleur au thème, au sujet, au contre-sujet, au divertissement aussi. Il y a plusieurs divertissements, pardon, dans la fugue. C'est une question très importante pour moi, l'articulation, dans Bach, en tout cas.
Ce prélude des fugues est probablement l'un des plus difficiles du recueil. Pour résumer, est-ce que c'est de la simple virtuosité ou bien autre chose ?
Je ne pense pas. Bon, il y a de la virtuosité, comme je le disais tout à l'heure, dans le prélude par exemple, c'est une pièce où il faut véritablement tout faire entendre. Donc c'est difficile, même s'il y a des pièces plus difficiles dans le répertoire du piano, plus difficiles techniquement. Là, c'est une pièce où on n'a véritablement pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à une erreur d'articulation, à une erreur de poids sur les notes. Je pense que chaque note doit avoir vraiment son propre poids. C'est une musique très très épurée, très propre, très claire, donc c'est pas une musique à effet, je dirais.
Merci Benjamin Till de nous emmener dans les terres intérieures de Jean-Sébastien Bach.
Prélude et fugue en ut dièse majeur, c'est ça. Les rêves, au début, ils sont naïfs. Ils se laissent avoir avec quelques bonbons. Après, ils sont là devant toi comme des jouets cassés. Et cela rassure les puissants. Souvent, ils renaissent, les rêves. Ils ont alors le charme des corps, le goût du miel, la couleur et la douceur de l'amandier. Espiègles, drôles, odorants comme une tarte que l'on sort du four, ils sont désobéissants. Et cela, les puissants ne le supportent pas. Alors, les puissants tirent, écrasent ou endorment et les rêves disparaissent. Sont-ils morts pour autant ? À ce moment-là, tu te sens très seul. Quelquefois, tu ne peux t'empêcher de boire à longs traits des liqueurs ténébreuses. Tu te saoules et tu te crois perdu, tu les crois perdus. Papillon, tu voudrais te brûler les ailes. Mais les rêves ne sont pas morts. Ils sont devenus rusés. Ils se cachent dans une goutte de rosée que personne ne remarque, dans un regard, dans ton sourire, dans l'inattendu qui est partout, ou presque. Ils sont là, dans la voix de cette vieille haïtienne qui a tout perdu dans le séisme. Seul un petit-fils a survécu. Elle ne pleure pas, mais pour lui, elle chante. Elle chante les vieilles chansons de sa terre, de son sang, de son peuple. Sa mémoire est défaillante, mais qu'importe. Elle chante, et le petit garçon écoute cette vieille tisse l'avenir. Les rêves ne sont séparés de notre monde que de l'épaisseur d'un souffle. C'est là qu'ils sont, hors de portée des puissants. C'est ce que nous chuchote le prélude. C'est aussi un tisserand assis dans la poussière. Il dit souvent « J'ai besoin de la terre, j'y trouve la confiance qu'il faut pour écouter les hommes. » Et il écoute les hommes, en effet. Il n'est pas seul. Il est entouré de gens silencieux et graves, tous ces gens qu'il a écoutés. Le tisserand sait qu'il y a certaines choses qu'on ne voit qu'avec des yeux qui ont pleuré. Il ne dit rien. Il tisse. Son travail demande patience et confiance. D'une main légère, il tisse une pièce de tissu qui sera un signe. Il invite les hommes qui l'entourent à glisser un fil de la soie la plus légère, puis un fil de lumière, un autre fil de soie, puis un fil d'ombre, encore un fil de soie, puis le fil du désir, le fil des déceptions, le fil des projets, le fil des déchirures. Si la pièce de tissu est légère et sans défaut, alors un être pourra accomplir l'essentiel d'une vie. Il pourra se mettre, oui, se mettre au monde.
C'était le prélude et fugue en ut dièse majeur de Jean-Sébastien Bach, interprété par Benjamin Thiel au piano. Merci à lui. Merci à Pierre Minguet pour la lecture. Merci à Christophe Bruls pour la technique. Dans 15 jours, nous aborderons le prélude et fugue en ut dièse mineur, prélude et fugue qui est grandiose, comme une cathédrale. Et pour terminer, voici le prélude et fugue qui nous a occupés aujourd'hui, dans la version chantée par les Swingle Singers. Au revoir, à bientôt.
Musique et poésie. Pour savoir qu'au-delà, tout reprend de plus belle. Jean-Sébastien Bach, sous les doigts de jeunes musiciens avec les mots d'un poète d'aujourd'hui. Une émission proposée par Pierre-Paul Delvaux avec la collaboration de la section clavier du Conservatoire Royal de Musique de Liège.